Studio Tamani, voici les informations en français.
Studio Tamani, informé pour comprendre et dialoguer, pour s'entendre. Il est exactement 8 heures dans ce studio. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ce 3 décembre est célébrée Journée mondiale des personnes à mobilité réduite. Cette commémoration intervient au Mali à un moment où des avancées ont été réalisées pour leur inclusion socio-professionnelle. Le plan de réponse humanitaire de la Croix-Rouge estimé à plus de 5 milliards de francs CFA a été lancé hier à Bamako. Les acteurs, les secteurs retenus par le programme sont entre autres la sécurité alimentaire, la santé et la migration. La chronique Zoom sur nous parlera ce matin de ces personnes qui ont développé une addiction au thé. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara, Seydou Daou est à la mise en œuvre. Comme annoncé dans les titres, le monde célèbre ce mardi 3 décembre 2024 la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Objectif, promouvoir leurs droits et leur bien-être dans toutes les sphères de la société et du développement. La commémoration de cette journée vise également à accroître l'accessibilité aux services sociaux de base aux personnes à mobilité réduite, notamment la santé, l'éducation, la vie politique, entre autres. Au Mali, cette célébration intervient à un moment où des avancées font naître espoir sur l'inclusion professionnelle des concernés. Le point ici avec Khalifa Guita.
Au Mali, de manière transversale, les lignes bougent concernant la situation des personnes à mobilité réduite sur leur intégration socio-professionnelle. Toutefois, il y reste beaucoup à faire. Mamadou Sissoko, chargé de plaidoyer et stratégie d'inclusion de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées.
Au niveau de l'emploi, le quota de 15% de recrutement à la fonction publique qui était acquis, il se met en œuvre, même s'il reste encore le secteur privé, mais il faut aussi noter les établissements publics à caractère administratif qui essaient de se rapprocher de ce quota-là, surtout en lien avec le ministère de la Santé, de l'INPS, de la CANAM et autres. Le niveau de participation des personnes handicapées à la prise de décision a été rehaussé, valorisé.
L'Association malienne des droits de l'homme reconnaît aussi les efforts des autorités du pays, mais pour son président Maître Mokhtar Mariko, celles-ci peuvent encore mieux faire.
Discrimination positive en faveur de ces personnes-là, parce que d'abord, c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes défavorisées par la nature. Donc, les textes au Mali sont très clairs, mais l'application demeure un autre problème.
De nos jours, il est important d'avoir un accent particulier sur la gestion des violences basées sur le genre VBG à l'endroit des personnes en mobilité réduite. Mamadou Sissoko, chargé des plaidoyers et stratégies d'inclusion de la FEMAF.
Et surtout quand il s'agit des femmes et des filles handicapées, il y a plusieurs cas de vécu des VBG par les personnes handicapées. C'est des questions qui risquent de les exclure plus, surtout quand il s'agit de dénoncer. Donc, par le fait des choses, vous vous retrouvez encore discriminé. C'est encore très compliqué à ce niveau.
Respecter la différence avec les personnes à mobilité réduite peut être un vecteur de justice sociale.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Journée mondiale de l'abolition de l'esclavage a été célébrée ce lundi 2 décembre 2024 dans le monde entier. À cette occasion, les défenseurs des droits de l'homme et l'Association de lutte contre les pratiques esclavagistes estiment qu'au Mali, le phénomène s'affaiblit grâce à l'application des lois incriminant l'esclavage. Plus de détails à suivre ici avec Sita Sidibé.
L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH. Selon lui, l'implication des hautes autorités dans la lutte contre l'esclavage a fait des avancées remarquables au Mali.
Aujourd'hui, nous avons un code pénal qui a été voté au CNT et qui réprime sévèrement tout acte d'esclavage ou tout acte assimilé aux pratiques de l'esclavage. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que le Mali a beaucoup avancé dans la lutte contre l'esclavage.
Malgré les efforts fournis par les autorités pour lutter contre le phénomène, de nombreuses personnes subissent l'esclavage par ascendance, jusqu'à présent dans la région de Kayes. C'est ce qu'a déploré Tamba Konaté, président d'honneur de Gambana, une association de lutte contre la pratique.
Ce n'est plus comme avant, mais la pratique continue toujours, car il y a des zones qui sont sous embargo. Certains déplacés à cause des violences n'arrivent toujours pas à retourner. Je peux donc dire que l'esclavage continue.
Les défenseurs des droits de l'homme préconisent une sensibilisation à outrance pour mettre fin à cette pratique.
À Kayes, une campagne de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue a été lancée le vendredi dernier. L'objectif, selon les organisateurs, vise à sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la consommation de la drogue. L'initiative est de la Direction régionale de la jeunesse en collaboration avec l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kaï. La cérémonie a enregistré la présence des autorités régionales et de la société civile. On en vient à un des titres de ce journal. La Croix-Rouge a lancé hier son plan de réponse humanitaire. Plusieurs secteurs, dont celui de la sécurité alimentaire, la santé et la migration, sont concernés par le programme. Le coût de la réalisation de ce projet holistique est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Il vise à soutenir 200 000 personnes dans les régions de Kaï, Mopti, Gao, Tombouctou, Koulikoro, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Le lancement a été suivi par Mariam Koulibaly.
Cet appel aux dons de la Croix-Rouge vise à soutenir de nombreux Maliens dont la situation humanitaire est de plus en plus précaire, a affirmé Assitan Koulibaly, présidente nationale de la Croix-Rouge malienne.
Parmi les populations touchées par l'insécurité alimentaire estimée à 1,3 million de personnes, plus de 120 000 d'entre elles sont en situation d'urgence absolue. Ce sont des vies humaines, des enfants, des femmes, des communautés entières qui luttent pour leur survie et l'humanité doivent parler à travers vous et moi.
L'action de l'organisation humanitaire a été saluée par le représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour Dr Abdoulaye Guindo, Ségal du dit ministère, cette action doit s'intensifier face à l'ampleur du besoin.
Lors des récentes inondations, la Croix-Rouge malienne a démontré une fois de plus son rôle indispensable à travers la distribution des biens essentiels, les évacuations d'urgence, la sensibilisation des communautés sur les risques sanitaires. Elle a été là et partout où le besoin était le plus pressant.
Selon les responsables de cette organisation, les 9000 volontaires à travers le pays comptent sur chaque contribution financière, technique ou logistique pour mener à bien cette mission.
Le Conseil communal de la jeunesse de Badiangara a tenu ce dimanche 1er décembre une rencontre d'échange sur le thème « Rôle et limites de la jeunesse ». Cette session s'inscrit, selon les responsables du Conseil, dans une dynamique de renforcement des capacités et de prise de conscience des jeunes de la région. Les échanges ont insisté sur les enjeux et défis auxquels la jeunesse fait face dans la construction d'un avenir prometteur. On reste toujours à l'intérieur du pays. Trois adolescents âgés entre 15 et 20 ans ont été assassinés dimanche 1er décembre dans la matinée par des hommes armés non identifiés à moto. Le drame s'est déroulé dans le village des Wela, commune de Kolongo, dans le cercle de Massina. Selon des sources locales, les victimes venaient d'une briqueterie.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
L'addiction au thé est une maladie dont souffrent beaucoup de personnes. Et quand ces personnes n'en ont pas, c'est bonjour les problèmes, n'est-ce pas, Lala Diarra Touré?
C'est exact. Entre mon beau-frère Maman et le thé, une vraie histoire d'amour. Il en prend à tout moment, matin, midi et soir. Tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, sa femme Binta lui tend son verre de thé fait à la malienne. C'est le secret des journées réussies pour lui. Lorsqu'il vient au service, c'est le planton qui prend le relais et c'est pour le reste de la journée. Tout le monde a averti Maman de mesurer son affection pour le thé au risque de développer une dépendance. Maman a toujours fait la sourde oreille. Un jour, sa femme a voyagé et Maman n'avait pas eu droit à son thé du matin avant d'aller au boulot. Il est donc sorti de la maison étant de mauvaise humeur avec de violents maux de tête, au point de ne pas pouvoir assister à sa réunion matinale. Il comptait sur le planton pour rattraper le coup. Malheureusement pour lui encore, celui-ci était en congé. Et c'est là que Maman réalise à quel point il est devenu accro au thé, au point de l'empêcher de travailler. Chers auditeurs, prendre de temps à autre du thé ou autre boisson pour le plaisir est compréhensible, mais en faire un impératif peut souvent nous causer des désagréments.
Merci Lala Diarra Touré, ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés dans un instant, le magazine. Les prémices des élections amorcées, c'est le thème de ce magazine gouvernance réalisé et présenté ici par Lale Tangara.
Les avis sont discordants depuis l'annonce des 8 axes fondamentaux du nouveau gouvernement. À l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICAD, les responsables estiment que l'organisation de l'élection présidentielle est un point crucial compte tenu du climat social. Fousseni Diop est le responsable programme gouvernance et engagement civil.
Au vu du climat actuel, il faut que le gouvernement actuel travaille déjà à apaiser le climat politique parce que je pense que beaucoup de partis politiques sont aujourd'hui en marche du processus. Il faut déjà qu'on puisse connaître rapidement un chronogramme pour aller rapidement à des élections transparentes et apaisées, comme le président de la transition l'a demandé.
La tenue des élections dépend d'une grande volonté politique. C'est ce que pense Alassane Abba, secrétaire général du parti politique CODEM. Selon lui, le fait que les élections soient citées parmi les priorités du gouvernement ne signifie pas qu'elles seront très vite concrétisées. Pour lui, il faut observer.
L'organisation des élections fait partie des missions prioritaires du gouvernement. Nous avons suivi cela, mais attendons voir. Quand on sait que lors du premier coup d'État, l'organisation des élections était attendue dans le plus court laps de temps et que nous sommes 4 ans après, jusqu'à présent sans élection, nous le disons simplement d'attendre. Attendons voir.
Et pourtant, l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, qui a reçu la visite du nouveau premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ce lundi, dit être dans des phases de formation de ses équipes. Moustapha Cissé, président de l'EJ.
Nous avons également assuré la formation des membres de coordination après leur installation, les cérémonies de prestation de serment devant l'autorité judiciaire. Nous avons ces derniers temps, monsieur le Premier ministre, élaboré des documents extrêmement importants. Nous avons décidé d'aller sur le terrain, non seulement pour aller superviser la révision des listes électorales LARAL de 2024, mais aussi nous avons comme mission d'assurer la formation de nos coordinations en vertu des dispositions de la loi électorale, notamment les cadres de concertation avec l'administration, les partis politiques.
Pour Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, ce qui est certain, une transition se termine toujours par l'organisation des élections. Ce dernier axe est bien à sa place car il vient couronner les efforts consentis par les autorités, dit-il.
Ce qui est certain, de toute façon, une transition se termine toujours par des élections. C'est ce que ça veut dire. Quand vous regardez comment les priorités sont définies, l'organisation des élections transparentes et apaisées viennent en dernière position. Ça veut dire que c'est le couronnement de tous les efforts, effectivement, de la transition.
L'analyste politique Abdoul Sogodogo indique que différentes actions ont été prises dans le sens de l'organisation des élections, notamment le budget alloué au processus, ce qui prouve que ce n'est qu'une question de temps, apprécie-t-il.
On voit que le gouvernement de transition met effectivement la focale sur les élections. Et récemment, l'EJ s'est dite prête pour l'organisation des élections. Et dans le budget de l'année 2025, on a vu également qu'il y a une part belle du budget qui est accordée à l'organisation de ces élections. Donc, c'est maintenant une question de date et de temps. On s'attend effectivement à l'organisation des élections présidentielles.
Certains observateurs de la société civile pensent que, hormis la sécurité et la défense, l'organisation des élections devrait être l'unique axe prioritaire de la nouvelle équipe gouvernementale.